enjeux qui nous concernent toutes et tous. C'est important de les comprendre, de se les approprier, et aussi justement de déconstruire des nombreux mythes qui entourent la notion de croissance, de décroissance dans le débat public, et comprendre le lien qui existe entre ces notions parfois un peu théoriques et en fait des enjeux très concrets comme la crise écologique, la lutte contre les inégalités ou la réduction de la pauvreté. Donc cette conférence, elle va se dérouler en trois parties. Dans un premier temps, on aura le plaisir de donner la parole à Jeanne Schuster et Simon De Bruyne, qui sont deux étudiants et étudiantes du collectif Rethinking Economics ULB, un collectif qui se présentera mais qui a pour but de démocratiser l'enseignement de l'économie et de rendre accessible des notions complexes au grand public et également de changer l'enseignement des théories économiques. Et donc avec eux, on va essayer de poser les bases sur ce qu'est la croissance, ce qu'est la décroissance, pour justement par la suite pouvoir approfondir ces notions avec Olivier de Sutter, qui est rapporteur spécial à l'ONU sur les droits humains et l'extrême pauvreté, et qui est également auteur du livre « Changer de boussole, la croissance ne vaincra pas la pauvreté ». Et donc voilà, justement après cette conférence introductive, on aura l'occasion d'approfondir ces notions et d'essayer de comprendre de manière plus large quel est le lien entre justement la croissance et l'enjeu des inégalités, de la pauvreté, mais aussi toutes les limites dont on aura eu l'occasion de discuter. Dans un troisième temps, le but, ce sera que vous puissiez poser toutes vos questions aux intervenants et intervenantes. Et on se réservera le temps pour faire ça. Je rappelle qu'il n'y a pas de questions stupides, surtout sur des enjeux économiques qui ont parfois beaucoup de complexité ou que, sur lesquels on n'ose pas forcément s'approprier les enjeux. Et je rappelle aussi que tout au long de ce festival Berta Cáceres, il y a tout un cadre safer qui est mis en place pour faire vraiment en sorte que tout se déroule de manière très bienveillante. Et c'est pour ça aussi que je vais vous demander, quand vous prenez la parole, n'hésitez pas à lever le bras, parce qu'on a aussi la chance aujourd'hui d'avoir une interprétation en langue des signes. Si jamais vous avez faites partie de personnes privilégiées dans la salle, vous posez aussi des questions, peut-être sur votre temps de parole et la façon dont vous mettez en avant vos enjeux, vos questions. Évidemment aussi, le respect d'un cadre bienveillant implique de ne pas s'interrompre mutuellement et de faire en sorte que tout le monde se sente bien dans la salle. Je rappelle également aussi, pour les applaudissements, on privilégie le fait de faire comme ça des mains pour des personnes qui potentiellement seraient dérangées par les bruits des applaudissements. Voilà, cette petite introduction faite, je vais directement passer la parole en fait à Jeanne Schuster du coup et Simon De Bruyne de Rethinking Economics pour, comme on l'a dit, une présentation introductive sur la croissance et la décroissance. Et idéalement, après ces 20 minutes, on aura un peu mieux des bases et un meilleur aperçu de ce que sont ces enjeux avant de passer la parole à Olivier pour différentes questions aussi. Voilà, merci beaucoup.
Bonjour à tous. Alors, je vais avant de parler de ce que le PIB, la croissance, etc., je vais juste introduire ce qu'est notre cercle. Donc, le cercle Rethinking Economics est un mouvement international qui est né juste après la crise de 2008 en Angleterre, parce que des étudiants se sont posé la question de comment ça se faisait que la théorie mainstream, l'économie néoclassique, n'avait pas prévu la crise de 2008 et qu'on connaît tous. Et donc, ils se sont intéressés à d'autres économies qui existaient et qui n'étaient pas enseignées dans les cours d'économie, même en sciences politiques. Et du coup, nous, Simon et moi, nous faisons partie de la section locale à l'ULB, et tout au long de l'année, on organise des conférences, des journées de formation sur des thèmes d'économie hétérodoxe, comme l'économie écologique, l'économie décoloniale. Là, notre prochaine journée de formation, c'est sur l'économie et la politique, le 27 avril. Voilà.
Merci à Jeanne pour cette introduction et cette présentation de RULB. On va pouvoir... Donc maintenant, commencer vraiment le sujet de la conférence. Plus proche. Est-ce qu'on m'entend mieux? Ça a l'air. Merci beaucoup. Merci à Olivier pour le conseil. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de matériel. Donc, on va pouvoir commencer en parlant justement donc de la notion de PIB, comme l'ont dit Adriano et Jeanne. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que la notion de PIB, donc de produit intérieur brut, bien qu'elle soit très récente à l'histoire de la science économique, ça a été créé dans les années 30-40, elle répond en fait à une interrogation qui est très ancienne. C'est-à-dire que déjà au XVIIe siècle, il y a des études qui ont été menées d'un point de vue plus politique pour mesurer l'état de ressources qui sont à, enfin, la quantité de ressources qui sont à la ressource à la disposition des États. Donc en soi, c'est une question qui est très ancienne et qui a connu justement un tournant à partir des années 30, c'est-à-dire qu'on a commencé à vouloir scientifiser tout ça et à vouloir obtenir une mesure qui soit entre guillemets plus objective de la notion de production intérieure et de richesse nationale. Et donc, la notion de PIB, elle est conceptuellement très simple. Bien qu'elle soit née très très tard dans l'histoire de l'économie, on peut la résumer en une idée directrice qui est relativement claire, relativement directe, qui consiste à vouloir mesurer la quantité de biens et de services produits dans l'économie, donc au sein d'une entité territoriale et d'une durée donnée. Traditionnellement, la mesure la plus répandue, c'est dans un pays au cours d'une année. Alors, donc cette notion de PIB, cette notion de PIB, elle est aujourd'hui centrale dans la question de politique économique. C'est quelque chose dont on parle énormément dans la presse, dans les médias en général. C'est la principale façon d'évaluer le succès ou l'échec d'une décision de politique économique prise par les gouvernants. Et effectivement, on peut voir que cette recherche d'augmentation du PIB, elle a eu des impacts qui sont globalement relativement... Elle a eu des conséquences positives, il faut le reconnaître. Justement, on trouve ce que fait Marx dans le Capital, si on prend une critique du capitalisme, c'est que cela a permis de générer une augmentation des ressources. Mais en fait, cette recherche plus systématique de la croissance économique, elle ne démarre même pas avec la notion de PIB en tant que telle. Parce que la notion de PIB démarre en temps de crise, ça démarre dans les années 30 avec la crise de 1929 aux États-Unis et la Grande Dépression, pour savoir comment est-ce qu'on peut sortir de cette crise. Mais les modèles de croissance, les premiers modèles de croissance qui utilisent le PIB sont dans les années 50, donc on est près de 20 ans plus tard. Et c'est là qu'on va commencer à voir mesurer précisément la croissance du PIB, donc la croissance de la valeur des biens et services qui sont produits dans l'économie. Pour ce faire, on va établir une petite distinction très rapide entre ce qu'on appelle le PIB nominal et le PIB réel. La plupart du temps, dans les médias, on va parler de PIB nominal, c'est-à-dire qu'on va prendre les biens et les services avec leur prix de l'année dans laquelle on parle. Donc, si on prend le PIB de 2022, tous les biens, tous les services produits en Belgique au cours de 2022, avec les prix de 2022. L'autre PIB, enfin, l'autre entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le PIB réel. Donc, c'est un PIB qui prend en compte l'inflation, où on va garder des prix constants. Et donc, quand on parle de croissance économique, on parle en fait de la croissance du PIB réel. C'est quelque chose qui est absolument très important de distinguer, parce que la plupart des temps, dans le débat public, on parle de PIB nominal, et ça brouille en fait les cartes quand il s'agit de discuter, parce que ça nuit à la qualité de l'information qui est présente dans la société, dans le débat public. La notion de croissance du PIB, comme je l'ai dit, est très très récente, mais elle a aussi ses limites, c'est-à-dire qu'il y a un plafond qui s'était démontré empiriquement par rapport au niveau de satisfaction qui peut être atteint par l'augmentation du PIB. Pour la raison qui est assez simple, c'est que le PIB a des limites conceptuelles, il ne peut pas tout faire, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la politique économique. Justement, les discuteurs en parlera plus tard, mais pour moi, je vais plutôt laisser Jeanne préciser quelles sont les trois grandes limites rencontrées par la notion de PIB.
Ouais. Alors, Simon nous a dit que le PIB était vraiment le véritable compteur des activités économiques dans un pays pendant une année. Mais le PIB, pour calculer en fait cet indicateur, on se base sur la comptabilité nationale. Qu'est-ce que la comptabilité nationale ? C'est comme pour une entreprise, c'est le recensement de toutes les activités économiques durant une année dans un pays. Le problème, c'est que la comptabilité nationale, elle est basée sur ce qui est déclaré à l'État. donc les choses qui sont légales. Donc, par exemple, ça néglige tout ce qui est échange de drogue, etc. Ou même le PIB ne parle pas non plus de ce qui n'est pas... Il prend en compte seulement ce qui est économique, et donc avec un échange d'argent. Donc, tout ce qui est bénévolat, travail ménager, etc., travail au noir, tout ça, ou même production individuelle, si on produit dans notre jardin des fruits et légumes, tout ça n'est pas comptabilisé dans le PIB. Donc, le PIB ne prend pas en compte, en réalité, tout ce que comprend l'économie. Ensuite, le PIB est souvent utilisé pour comparer différents pays et l'économie de différents pays. Mais en réalité, cela n'est pas vraiment pertinent parce que, comme je vous ai dit, c'est basé sur la comptabilité nationale et dans certains pays, par manque d'outils statistiques, etc., elle est parfois un peu fausse et faussée. Et donc... ce fait de comparaison n'est pas pertinent. Ensuite, c'est un indicateur qui est seulement plus frais et qui est plutôt quantitatif. En fait, il est seulement quantitatif et donc ne prend pas en compte la qualité, le bien-être de la population. C'est seulement la production dans la société. Mais donc, pour lui, qu'on produise des armes ou des médicaments, c'est la même chose, c'est juste la valeur qui est créée. Ensuite, le PIB n'est qu'une moyenne, donc il ne prend pas en compte les inégalités entre les personnes dans le pays. Le pays peut avoir un PIB très élevé, mais en fait de grandes inégalités sociales, et ça il ne reflète pas du tout.
Oui, et donc, une troisième limite qu'on peut ajouter, c'est la limite environnementale. C'est-à-dire que je vais prêcher sûrement à des convaincus, mais donc les limites environnementales qui sont rencontrées aujourd'hui par les sociétés, en fait, ne sont absolument pas prises en compte dans le PIB. Le PIB, c'est une mesure, comme Jeanne a dit, qui est très synthétique, qui est aussi conceptuellement très puissante. Mais la recherche constante de la croissance du PIB, elle nous amène effectivement à une crise climatique. Elle nous a amené déjà, on y est déjà, et elle nous amène de plus en plus vers une crise climatique extrêmement grave. Ce que là, je ne vous apprends rien. Donc, la question qu'on peut naturellement se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue cette recherche de la croissance du PIB, ou est-ce qu'on fait autre chose ? Cette autre chose, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle la décroissance. Ça peut aussi s'appeler la post-croissance. La post-croissance, c'est que la conséquence de la décroissance. Et donc, la décroissance, c'est le fait de volontairement, et le terme volontairement est important, volontairement décroître le PIB, donc réduire la quantité de biens et de services produits et consommés dans l'économie. Pour une raison simple, c'est que empiriquement, on n'a jamais eu la moindre trace d'une augmentation de la production, une augmentation du PIB et d'une diminution de notre empreinte matérielle. Et il y a de plus en plus d'études qui sortent sur le sujet. C'est un mouvement qui est en pleine expansion en recherche économique, qui tente à montrer que cette volonté de détacher complètement la croissance de l'utilisation des ressources est pour le moins illusoire. Et donc, la solution à ça, c'est la décroissance, donc la réduction volontaire du niveau des ressources, de la consommation des ressources, et la concentration des efforts de politique économique vers d'autres indicateurs, d'autres problématiques qui sont extrêmement importantes, notamment les inégalités dont Olivier va parler maintenant.
Voilà, ben merci beaucoup Jeanne et Simon pour cette courte introduction, qui avait vraiment pour but en fait de poser les bases de ce qu'est justement la croissance, ce qu'est le PIB, le produit intérieur brut. Et je vais directement passer la parole justement à Olivier de Sutter avec une question introductive. En fait, du coup, Olivier, tu as écrit le livre Changer de boussole, la croissance ne vaincra pas la pauvreté. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre ? Quels sont les constats que tu as fait dans le cadre de tes activités professionnelles ou tes engagements aux Nations Unies qui t'ont donné envie d'écrire ce livre et de poser sur papier toutes les limites de la croissance et le lien qu'il y a entre la croissance et les inégalités et la pauvreté.
Merci Adriano, bonjour à tous et toutes. Et je voudrais d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai à être parmi vous à l'invitation de Adriano, mais aussi de Léa Charlet qui est quelque part ici et dont nous sommes très fiers qu'elle soit troisième sur la liste Europe du Parti Écolo et je suis extrêmement fier de pouvoir l'associer à cet événement en me réjouissant que nous fassions équipe pour cette campagne électorale. Alors, Adriano me demande d'où vient le livre et d'où vient l'urgence que j'ai eu à traiter de ce sujet. Il y a en réalité deux explications. La première, c'est que au sein des Nations Unies, nous sommes en train de réfléchir aux objectifs de développement qui vont succéder aux objectifs de développement durable, qui, vous le savez, ont été adoptés en 2015, qu'il faudra renégocier pour la période 2030-2045. Et nous sommes de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreuses, à poser la question de savoir si la croissance du PIB doit continuer d'être le passage obligé pour toutes les politiques qui visent à réduire la pauvreté, réduire les inégalités, réaliser les droits humains, travailler au bien-être des populations, ou bien si l'on peut faire autrement. Et avec un grand nombre d'ONG, de syndicats, de think tank tels que l'Institut Veblen de Paris ou le Institute for New Economic Thinking à Londres, nous réfléchissons à une alternative aux objectifs de développement durable qui ne fasse plus dépendre le progrès social, la réduction des inégalités, la réduction de la pauvreté, de la croissance du PIB, parce que aujourd'hui, la manière traditionnelle dont nous avons de répondre à ces défis sociétaux, c'est de faire croître l'économie, le volume des biens et de services qui sont produits à l'échelle d'un territoire au cours d'une période donnée, en assurant ensuite une redistribution des fruits de la croissance. C'était le grand slogan, rappelez-vous, des années 1950-1970, ce que Simon a rappelé. Pendant toute cette période, le compromis dit fordiste était très simple. On faisait croître l'économie et puis on redistribuait avec en substance un tiers des revenus qui allaient aux travailleurs et travailleuses pour récompenser les gains de productivité, un tiers qui allait aux actionnaires des entreprises pour les remercier d'avoir mis leur capital à disposition et de l'avoir risqué, et puis un tiers allant à l'État sous forme de taxes, d'impôts que l'État collectait pour financer les services publics et la protection sociale. Et ce compromis fordiste qui achetait la paix sociale en promettant l'amélioration continue du niveau de vie était une manière de ne pas se poser la question de la redistribution des richesses. On pouvait tolérer que subsistent des inégalités, puisque celles-ci non seulement se réduisaient, ce n'est plus le cas maintenant depuis les années 80, mais en outre la vie des enfants serait meilleure que celle des parents grâce à une croissance qui était très significative au cours de cette période dite des 30 glorieuses, où on avait des taux de croissance de 5-6% par an dans l'Europe occidentale, dans les pays riches. Et donc, les objectifs de développement durable, en fait, s'inscrivent dans ce logiciel, dans ce paradigme d'un développement fondé sur la croissance. Et dès lors, la mesure du progrès que représente le PIB, et Jeanne et Simon ont expliqué la généalogie de cette mesure, c'est l'économiste Simon Kuznets à qui le président Franklin Delano Roosevelt a demandé en 1934 d'arriver avec une mesure du progrès qui pourrait être utilisée pour rassurer le public américain sur le fait que l'économie s'améliorait. Et Simon Kuznets a proposé cette mesure qui ensuite a été améliorée, renégociée. Il y a maintenant une harmonisation au niveau des Nations Unies qui fait qu'on arrive à faire des comparaisons entre pays et que même l'économie illégale de trafic, par exemple la prostitution ou la drogue, sont intégrées dans les mesures de PIB à travers de mesures qui sont certes approximatives mais qui visent à évaluer au fond si l'économie augmente sa production. Et je suis parti de la conviction, nous sommes partis de la conviction, que ça n'avait plus de sens de s'épuiser à croître le PIB, parce que aujourd'hui les politiques que l'on met en place pour stimuler la croissance, pour en quelque sorte artificiellement continuer de gonfler le volume de l'économie et donc son métabolisme, et on va en venir évidemment à la question des ressources et des déchets de la pollution, était devenue contre-productive. Et c'est ça le mot-clé dans le livre Changer de boussole, c'est que la quête du PIB, la quête de la croissance à tout prix, est devenue contre-productive parce qu'elle nous conduit à adopter des mesures qui, en fait, créent de l'exclusion au lieu de la réduire. Pour vous donner simplement un chiffre, on a connu depuis 2 siècles une croissance moyenne en Belgique de l'ordre de 2% de l'an. En d'autres mots, la période 1945-1975 était assez exceptionnelle, avec des taux de croissance de 5-6%. La moyenne, c'est 2%. Mais une économie qui croît à 2% de l'an, en termes réels, c'est-à-dire sans tenir compte de l'inflation, c'est une économie qui double de volume en 35 ans. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que en 2024 plus 35, ça fait combien ? 2059. Est-ce qu'en 2059, on veut avoir 2 fois plus de trucs, de gadgets, de matières qui nous entourent et qui nous encombrent ? Et notre réponse, c'est non. Notre réponse, c'est nous voulons plus de temps libre, nous voulons un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, nous voulons davantage d'arbres dans les rues, nous voulons davantage de pistes cyclables, nous voulons davantage de temps que l'on peut vouer aux relations amoureuses et amicales, nous voulons un tas de choses. Nous sommes dans la revendication, mais nous ne voulons pas que l'économie continue d'augmenter à ce rythme. Nous ne pensons pas que c'est là que se trouve la source du bien-être aujourd'hui. Et nous pensons qu'à force de rechercher cette croissance à tout prix, l'on est en train de créer davantage de problèmes que de solutions. Et donc, ça, c'est la première motivation. La deuxième motivation, je réponds alors, enfin, de manière très brève sur ce deuxième facteur, c'est que j'ai dû voir le pape François en septembre 2022, et la demande, c'était expliquer comment on peut combattre la pauvreté dans le monde. Et sachant que j'aurais très peu de temps avec lui et que je sortirais frustré de cette rencontre pour n'avoir pas pu tout dire, parce que c'est un sujet un peu complexe quand même à résumer. Et donc je me suis dit, ben, je vais écrire une lettre que je vais lui donner pour pouvoir être un peu plus complexe. Et ça a donné ce petit livre, Changer de boussole, qui maintenant paraît en anglais, The Poverty of Growth. Et celles et ceux qui lisent l'anglais, je vous recommande plutôt cette version anglaise.
Voilà, merci beaucoup Olivier pour ces propos introductifs. Tu dis que justement la croissance elle est devenue contre-productive. J'imagine que certains pourraient te rétorquer, mais qu'en fait avec l'augmentation de la croissance économique, on a vu ces dernières années, ces dernières décennies, une baisse en fait de l'extrême pauvreté dans le monde. Et donc je pense que c'est important aussi de s'attarder sur en fait c'est quoi exactement la pauvreté, quelles sont les différentes conceptions qui existent de la pauvreté pour pouvoir mieux comprendre en fait pourquoi par la suite, et peut-être on reviendra là-dessus, pourquoi la croissance elle est devenue contre-productive ou ne permet plus de résoudre les inégalités, la pauvreté. Mais donc ma question là c'est, en fait qu'est-ce que tu entends par pauvreté ou extrême pauvreté, et aussi comment ça a pu influencer les propos du livre ?
Oui, alors c'est en fait une question éminemment idéologique et politique que de savoir comment on définit la pauvreté. Ce n'est pas quelque chose qui est donné d'avance. Et il y a un objectif de développement durable. L'objectif de développement durable numéro 1, c'est l'éradication de la pauvreté à l'horizon 2030. On en est loin, mais il faut évidemment mesurer les progrès que l'on fait vers cet objectif dans le cadre des ODD. Et la mesure qu'on utilise, c'est une mesure qu'a recommandée la Banque mondiale depuis les années 1990, et c'est la mesure qui, aujourd'hui, consiste à dire, parce que le chiffre a été adopté au fil des années, qu'une personne est en extrême pauvreté si elle gagne moins de 2,15 dollars par jour en dollars américains de 2017 en parité de pouvoir d'achat. Donc c'est un terme un peu complexe, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on peut acheter aux États-Unis en 2017 avec 2,15 dollars, ça suffit à se placer à l'abri de la pauvreté, si je me fais comprendre. Mais c'est absurde, parce que ça veut dire que, par exemple, si aujourd'hui au Portugal, vous faites plus de 80 euros par mois, vous n'êtes plus considéré comme en extrême pauvreté. Ça n'a évidemment aucun sens. Et pourquoi est-ce que la Banque mondiale recommande cette mesure de la pauvreté ? Eh bien, quand on fait la généalogie de cette mesure, on se rend compte que c'est pour des raisons politiques. En fait, la Banque mondiale a voulu éviter que des pays très pauvres, comme le Malawi ou le Sierra Leone, des pays de cet ordre-là, soient au fond désespérés de voir que 95% des gens chez eux sont en extrême pauvreté et ne parviennent pas à faire des progrès en matière de lutte contre la pauvreté. Et donc on a demandé, en fait, aux pays les plus pauvres du monde de dire quel était leur seuil national de pauvreté. Et la Banque mondiale a pris ces mesures nationales et a identifié dans ces mesures nationales de la pauvreté ceux qui relevaient de la pauvreté absolue et de la pauvreté relative. Je passe les détails. Mais donc c'est une mesure qui n'a absolument aucun sens. Et pourtant, c'est pour ça qu'on dit la pauvreté, l'extrême pauvreté se réduit. C'est parce qu'on a réussi à réduire le nombre de gens qui vivent avec moins de 80 euros par mois dans un pays comme le Portugal. Je le répète, ça n'a aucun sens. Et alors que même que je suis rapporteur spécial de l'ONU sur l'extrême pauvreté, je ne cesse de critiquer la mesure même à partir de laquelle on évalue les progrès qui sont faits par la communauté internationale dans ce domaine. Alors il y a une deuxième mesure de la pauvreté qui est la pauvreté multidimensionnelle. On mesure alors la pauvreté, c'est beaucoup plus intéressant, en fonction d'un certain nombre de critères liés à la santé, à l'espérance de vie, à l'éducation, le nombre d'années d'études, le logement, etc. Donc c'est plus intéressant parce que déjà, ça veut dire qu'on peut lutter contre la pauvreté multidimensionnelle, donc non seulement en donnant de l'argent, en augmentant le pouvoir d'achat, mais aussi en investissant dans des biens publics. Et c'est extrêmement important, évidemment, parce que si vous vivez avec, mettons, 500 euros par mois, il sera beaucoup plus difficile de vous en sortir si la santé, l'éducation, la mobilité, etc. sont chères et privatisées que si l'État fournit ses services en tant que bien public, gratuitement financé par l'impôt. Donc la pauvreté multidimensionnelle est déjà beaucoup plus intéressante et correspond déjà mieux à la nécessité d'améliorer le bien-être des populations. Mais même cela ne suffit pas, et ma conception de la pauvreté, celle que j'essaye de défendre modestement dans l'ouvrage, est une pauvreté définie en termes d'exclusion sociale. Pourquoi ? Parce que quand on travaille avec les personnes en pauvreté, et qu'on leur pose la question de savoir c'est quoi pour vous la pauvreté, elles parlent, c'est vrai, de revenus insuffisants, elles parlent de l'absence de travail décent, elles parlent de privations matérielles sévères, et tout cela est important, mais elles parlent aussi de la honte, de la stigmatisation, de la difficulté qu'elles ont à refuser à leur enfant de pouvoir partir en classe verte alors que tous les autres enfants de la classe peuvent y arriver. Elles parlent, ces personnes, de la discrimination dont elles font l'objet dans la recherche d'un logement, d'un emploi, parce qu'elles n'ont pas les codes culturels, parce qu'elles ont une apparence physique qui fait qu'on a peur de les recruter, etc. Et donc, elles parlent de dimensions non strictement matérielles de la pauvreté. Et elles parlent de l'exclusion sociale, du sentiment d'exclusion et de stigmatisation qui s'attache au fait qu'on vit avec des faibles revenus, qu'on n'a pas, à travers son éducation, acquis tous les codes culturels qui permettent d'être à l'aise en société. Et elle parle aussi de l'absence de réseaux sociaux et familiaux permettant d'être soutenu en temps de crise. Donc, ma conception de la pauvreté, c'est une pauvreté en termes d'exclusion sociale. Et c'est une notion qui n'est pas absolue. C'est pas un seuil minimum au-dessus duquel on est à l'abri, en dessous duquel on est en pauvreté. Non, la pauvreté est une notion relative. C'est-à-dire qu'une personne, même dont les besoins essentiels sont satisfaits, mais qui est dans une société fortement inégalitaire, où elle ne peut pas rivaliser avec les autres, par exemple pour équiper l'enfant pour l'école ou pour s'offrir des loisirs auxquels tous les autres ont droit, cette personne se sentira socialement exclue. Elle aura honte, elle se sentira discriminée, elle aura peur d'affronter le regard d'un autre. Et ce n'est pas cette conception, une conception nouvelle. Adam Smith, en 1776, dans son enquête sur les causes et la nature de la richesse des nations, disait déjà « La pauvreté, dans l'Angleterre de la fin du XVIIIe siècle, c'est ne pas pouvoir se payer une chemise de lin. Pourquoi » Pourquoi ? Parce que c'était ça le critère, je dirais, de la norme sociale à l'époque, c'était ça. Et on avait honte d'affronter le regard d'autrui quand on ne pouvait pas se permettre cela. Donc, voilà. Et c'est important, pourquoi ? Parce que si on a une croissance qui augmente le niveau de revenu en général, gonflant, je dirais, le volume de la richesse produite par l'économie, mais qu'en même temps, on a des écarts plus importants entre les plus riches et les plus pauvres, en fait, on n'aura pas moins d'exclusion, on aura plus d'exclusion sociale, parce que la norme sociale, les attentes de la société par rapport au comportement qu'on doit avoir, au type de d'habits qu'on peut porter ou de type de consommation qu'on peut se permettre, si vous voulez, rendre de plus en plus inatteignable cette norme pour des personnes, y compris celles qui ne meurent pas de faim, qui ont un toit au-dessus de leur tête et qui parviennent à s'habiller décemment.
Là, merci, on comprend mieux avec cette conception de la pauvreté aussi la phrase choc, on va dire, ou la phrase clé de ton livre, comme quoi la croissance économique, en fait, elle a franchi le pic de l'utilité, elle est devenue contre-productive pour lutter contre l'inégalité, la pauvreté. C'est parce que, comme tu le dis, la pauvreté, entendue comme exclusion sociale, eh bien, elle est accentuée par aussi cette augmentation de matériel aussi dans l'économie et du coup par les inégalités qui se mettent en avant. Est-ce que tu veux développer encore plus cette phrase de du coup se dire pourquoi est-ce que la croissance économique en lien avec cette conception de la pauvreté elle est devenue contre-productive et plus globalement au-delà des limites qu'on a identifiées dans la partie introductive, est-ce que tu as d'autres limites ou d'autres éléments que tu penses vouloir mettre en avant par rapport à la croissance et par rapport à ses limites?
Oui, alors je voudrais d'abord rebondir sur ce qu'a dit Simon, qui, en prenant le relais de Jeanne tout à l'heure, disait qu'il y a une troisième limite au PIB tel qu'il est utilisé aujourd'hui dans le débat public, et c'est la dimension environnementale. On aura sans doute l'occasion de développer ceci, mais notons, parce que je voudrais dire un mot sur le découplage, et notons simplement ceci, c'est que quand on mesure, au fond, le flux de richesses produites dans une année donnée, sur un territoire donné, c'est ça le PIB, on oublie de rappeler que ce flux, c'est aussi la ponction de ressources, c'est la production de pollution, de déchets, y compris de gaz à effet de serre, et que une économie qui croît est une économie qui rapidement va franchir les limites de ce que les écosystèmes peuvent fournir comme ressources et peuvent absorber comme déchets. Et l'économiste qui a le mieux mis ça en avant, c'est un économiste qui s'appelle Herman Daly et qui a publié en 1976 un livre sur cette question des limites de la croissance et qui d'ailleurs était employé à la Banque mondiale et la Banque mondiale n'a pas du tout voulu recevoir ce message, perturbant évidemment, parce qu'il disait en substance la croissance infinie, elle ne peut pas être tolérée. Et Herman Daly en appelait du coup à l'économie stationnaire, la steady state economics. On aura peut-être l'occasion d'en revenir, mais ça c'est, je pense, la première et principale contre-productivité. Mais le mot de contre-productivité est l'idée que les services que la croissance économique peut nous rendre ont dépassé le pic de leur utilité, part surtout d'un constat, c'est que nous sommes tellement incapables d'inventer un autre logiciel de développement que l'on ne cesse de vouloir créer de la croissance, y compris par des politiques qui, en fait, créent davantage d'exclusion, créent davantage, je dirais, de d'épuisement dans les sociétés, ce qui conduit à ce que ces politiques aillent, au fond, à rebours de leurs promesses. Par exemple, on va libéraliser le commerce, négocier des accords de libre-échange pour créer de la croissance, fragilisant par là, dans le Sud, les petits paysans qui n'en peuvent plus d'être mis en concurrence avec des producteurs bien mieux soutenus et bien plus productifs des pays du Nord, ou épuisant et fragilisant la situation et le pouvoir de négociation des travailleurs et travailleuses faiblement qualifiés dans le Nord, qui, face à cette libéralisation du commerce, subissent en permanence la menace, le chantage des délocalisations. On pourrait y revenir. Ou bien, pour prendre un autre exemple, au nom de la croissance, on veut introduire dans les processus de production des technologies qui augmentent la productivité au travail, c'est-à-dire l'output par heure prestée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rend des travailleurs et travailleuses redondants et ça ne va faire que s'accentuer avec les progrès de l'intelligence artificielle. Et donc, il faut beaucoup plus de croissance pour absorber cette main-d'œuvre devenue redondante à laquelle il faut proposer des perspectives de l'emploi. Et donc, on épuise les hommes et les femmes de l'économie, on fragilise les communautés, on menace d'une concurrence de plus en plus mondialisée différents secteurs moins compétitifs à l'échelle mondiale de l'économie, et tout ça au nom de la croissance. Et donc je vous pose la question, à quoi bon poursuivre celle-ci si elle produit de tels épuisements et si elle détruit les écosystèmes et si elle dissout les communautés. Et donc, le livre, au fond, est une tentative de dire, dans nos pays riches, la croissance a été telle depuis 2 siècles que on n'a plus besoin d'elle. Maintenant, il faut se donner d'autres objectifs. Elle a fait son temps, la croissance. Et ça veut dire qu'il faut non seulement se doter de nouveaux indicateurs, parce que très souvent aux Nations Unies, croyez-moi, moi je discute beaucoup avec les agences, on me dit toujours, oui, mais rassurez-vous, on travaille à des indicateurs post-PIB, beyond GDP. Ça c'est, et donc on va avoir des indicateurs de progrès différents. Et c'est sympa des indicateurs différents. C'est important de voir que les gens sont crevés, de mesurer l'obésité, le chômage et des indicateurs de progrès social. Mais si on ne change pas le logiciel de l'économie, ça ne va servir à rien. On va continuer d'enregistrer des échecs et on va ne pas en tirer les conséquences quant à la manière dont l'économie est organisée. Et donc moi, je me méfie, Adriano, d'une réponse à la question de la contre-productivité de la croissance qui consisterait à dire « donnons-nous d'autres indicateurs et les choses vont aller mieux ». Ça ne suffira pas. Même si, je suis entièrement d'accord avec Jeanne et Simon, aujourd'hui, le succès d'un gouvernement est principalement mesuré au regard de 3 critères, le taux d'emploi, le niveau de chômage, le coût de la vie et, troisièmement, le taux de croissance. Mais celui-ci demeure déterminant. Et je suis très frappé de voir quand des gouvernements annoncent qu'il y a une récession 0,1% ce trimestre ou qu'au contraire, on a réussi une croissance de 2,1% cette année, eh bien, c'est un bulletin de défaite, un bulletin de victoire. Et personnellement, moi, je m'en fous parce que tout dépend de ce qu'on a dans ces points de croissance ou de récession. Il y a, je le répète, des choses qu'il m'intéresse de voir croître. Je suis même très pressé, figurez-vous, et il y a beaucoup de choses que j'ai très peur de voir encore grossir, rendant une société obèse de choses dont elle n'a pas besoin et incapable d'assurer en même temps le bien-être minimum pour les personnes qui n'ont rien.
Voilà, merci. Et du coup, si la croissance n'est pas une solution et que les indicateurs, changer d'indicateur, ça ne suffit pas, en fait, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quelles sont les alternatives? Comment est-ce qu'on peut lutter contre la pauvreté et les inégalités autrement? Est-ce qu'il y a des mesures à mettre en avant et des critères que ces mesures devraient respecter? Est-ce qu'il y a un lien aussi avec la transition écologique? Comment est-ce qu'on fait pour la rendre juste?
Alors, écoutez, moi, mon sentiment, si vous voulez, c'est que les limites de la croissance sont mises en avant depuis 50 ans par les scientifiques, les spécialistes des sciences de la Terre, à commencer par les auteurs du fameux rapport financé par le Club de Rome, Les limites de la croissance, 1972. Donella Meadows et son mari Dennis Meadows étaient les leaders de ce groupe au MIT qui a mis ça en avant. Et depuis, on a un tas d'articles, de livres scientifiques disant il faut arrêter, il faut ralentir, il faut décroître, on va vers l'effondrement, etc. Les économistes n'ont pas encore relevé le défi. On n'a pas encore de réponse à toutes les questions dérangeantes que les scientifiques ont posées et auxquelles les économistes n'ont pas vraiment de réponse. Et mon rapport, donc je prépare 2 rapports pour les Nations Unies qui vont paraître en juin et en octobre prochain, sur cette question, comment est-ce que la lutte contre la pauvreté et les inégalités peut se poursuivre dans un monde sans croissance? Et je suis frappé de voir combien les économistes sont pris au dépourvu. Parce que les économistes, ils ont appris à donner des conseils au gouvernement sur la manière de créer la croissance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord entre eux. Il y a les keynésiens qui disent la croissance, c'est une question de maintenir une demande suffisante en augmentant le pouvoir d'achat des classes moyennes et des ménages les plus précaires. Donc, on va augmenter le salaire minimum, renforcer la protection sociale, ça va lisser les cycles économiques, ça va permettre de maintenir en mouvement la machine économique et d'absorber la production pour l'augmentation des profits des entreprises. Et puis, il y a la réponse, je dirais, du camp plus conservateur, soucieux au contraire d'une orthodoxie budgétaire, de la création d'un climat favorable à l'investissement, d'une relative flexibilisation du travail pour inciter les investisseurs à investir et donc à créer de l'emploi. C'est des recettes différentes, mais ils convergent sur un point, il faut créer la croissance. Et les économistes qui réfléchissent post-croissance, ben, ils sont très rares et ils n'ont pas de bonne réponse. Et donc, les rapports que je suis en train de préparer se posent cette question-là. Et donc, j'ai toujours pas répondu, Adriano, à ta question, mais par exemple, comment est-ce qu'on peut financer les services publics et la protection sociale sans croissance ? Figurez-vous, c'est une question qu'on ne peut pas fuir. On a une population qui vieillit, on a des coûts en matière de soins de santé qui augmentent. Comment on va faire ? Et quand je pose cette question à quelqu'un comme Bruno Le Maire, sa réponse c'est « Mais vous êtes pour la post-croissance, mais comment est-ce qu'on va financer les pensions avec votre post-croissance, peut-être » dit-il. La réponse, c'est qu'on doit financer les pensions, les soins de santé autrement qu'en taxant le travail, parce que tant qu'on taxe le travail, eh bien, il faut créer de l'emploi, il faut renforcer, si vous voulez, la masse monétaire qui va vers les salaires, donc il faut de la croissance pour financer les pensions. Donc, pourquoi ne pas financer les pensions, par exemple, en taxant le patrimoine, ou bien en taxant les émissions de carbone, pour décourager les industries les plus polluantes et récompenser, au contraire, les modes de production les plus vertueux, etc. Bref, il faut chercher de l'argent ailleurs. Et dans la manière dont on réfléchit la fiscalité, il faut réfléchir comment la fiscalité peut financer les politiques publiques dont on a besoin, mais sans que cela repose sur la croissance. Et taxons le patrimoine immobilier, les actifs financiers, taxons les transactions financières. On n'a pas besoin de croissance pour que tout ça soit taxable. Okay ? Donc ça, c'est un exemple. Autre exemple, je travaille avec d'autres, évidemment, hein, c'est des travaux qu'on fait ensemble, c'est sur les communs entre ce qui est pris en charge par l'État et qui fait l'objet d'une distribution sous forme de biens publics et ce qui est pris en charge par le marché privatisé et qui va aux personnes qui expriment la demande en termes de pouvoir d'achat, il y a les communs qui sont en fait une manière de rendre des biens et des services accessibles pour des personnes au départ de règles de gouvernance qui sont démocratiquement négociées et qui sont entre les mains des utilisateurs. Et donc, je crois que se poser la question de savoir comment l'éducation, la santé, l'alimentation, etc. peuvent être traités comme des communs, c'est une manière aussi de sortir de cette obsession de la croissance qui à la fois est aujourd'hui déterminante pour financer les politiques de l'État et qui est vue comme étant stimulée par la mise en concurrence des opérateurs économiques et le fonctionnement d'un marché privatisé. Donc voilà, j'essaye de réfléchir, si vous voulez, les différents outils qui permettent de fonder des politiques publiques qui ne reposent plus sur la croissance comme condition de possibilité pour que l'on améliore le bien-être des populations. Et c'est pas facile, c'est un chantier qui vient d'être ouvert et l'ambition, c'est qu'en 2030, on ait mis sur la table des alternatives que les gouvernements ne pourront pas ignorer parce qu'elles seront endossées par un grand nombre d'acteurs sociaux.
Dans ton livre, tu mets aussi en avant la notion de mesures à triple dividende, c'est-à-dire des mesures qui peuvent à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre, créer des emplois et réduire les inégalités. Est-ce que tu veux développer ce point en mettant en avant des mesures concrètes qui permettent ces trois objectifs et qui seraient du coup aussi une alternative à la croissance et comme unique solution ?
Oui, alors en fait, cette idée de mesure à triple dividende, elle vient d'un rapport que j'ai présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies en octobre 2020, où la question se posait de savoir comment on reconstruit après la pandémie du Covid-19. Et le rapport porte pour titre « Éradiquer la pauvreté dans le respect des limites planétaires ». Donc c'était vraiment cette idée-là. Comment à la fois lutter contre la pauvreté et ne pas encore davantage épuiser les écosystèmes. Et c'est vrai que en préparant ce rapport, je me suis dit, tiens, l'écologie habituellement est une écologie qui est vue comme distincte des préoccupations sociales en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités. Les écotaxes sont un peu devenus le symbole de cette écologie, parfois un peu vite qualifiée de punitive. Et malheureusement, le mouvement écologiste a beaucoup subi les conséquences de cette approche des politiques environnementales qui n'intègrent pas d'emblée dans la manière dont elles sont imaginées la question sociale. Et le risque, c'est que on se coupe alors de toute une série de soutiens potentiels à des politiques progressistes si l'on ne l'intègre pas d'emblée les considérations relatives à la lutte contre la pauvreté, à la réduction des inégalités, dans la manière dont on conçoit la transition écologique. Et les mesures à triple dividende, c'est une manière de concevoir la transformation écologique qui veut justement prendre en compte ces dimensions sociales, et ça consiste à dire que le programme de transformation écologique doit être aussi un programme de transformation sociale où on prend des mesures qui respectent trois critères, trois conditions, qui cochent trois cases. Un, réduction de notre empreinte écologique, ponction des ressources, production de déchets et de pollution, réduction de la biodiversité, premier critère. Deuxième critère, on crée des emplois, notamment des emplois accessibles à des personnes ayant des faibles niveaux de qualification. Et troisièmement, on rend des biens et services indispensables à une vie décente, abordables à un prix bas pour les ménages précarisés. Et on peut identifier toute une série de mesures qui cochent ces trois cases dans des domaines comme l'énergie, l'alimentation, la mobilité, la construction, le bâtiment. Je prends deux exemples qui me viennent à l'esprit, et il y a toute une série d'exemples dans ce rapport de 2020 dont le livre fait une sorte de résumé. Un premier exemple, c'est l'isolation des bâtiments. Premier critère, ça réduit évidemment les pertes d'énergie liées à une mauvaise isolation et donc les émissions de gaz à effet de serre qui résultent de cette mauvaise isolation. Deuxièmement, ça crée des emplois, évidemment, dans le secteur de la construction, que de devoir revoir la manière dont les greniers sont isolés et l'énergie préservée au sein des bâtiments. Et troisièmement, c'est une manière de réduire la facture de chauffage des ménages. Donc c'est une mesure à triple dividende. Deuxième exemple, c'est l'investissement dans les transports en commun. Investir dans les transports en commun, c'est réduire la pollution liée à la voiture individuelle. Donc c'est écologiquement une bonne idée. Deuxièmement, c'est créer de l'emploi. Il faut des hommes et des femmes pour conduire les trams, les bus, les métros, pour maintenir l'état des voies ferrées, etc. Et troisièmement, c'est permettre de garantir le droit à la mobilité, y compris pour des ménages qui ne peuvent pas se payer de voitures individuelles. C'est une mesure à triple dividende. Et donc j'essaie d'identifier toute une série de mesures qui respectent ces trois critères. Et notez bien qu'une transformation écologique qui part de cette question-là, et qui pose la question en ces termes, est une transition écologique qui peut rassembler très largement, y compris au sein des groupes les plus défavorisés de la société, pour qui jusqu'à présent, l'écologie n'est pas une promesse, mais plutôt une menace, et qui s'en détournent, et qui s'en méfient, parce qu'ils n'ont pas l'impression que leurs préoccupations très concrètes, très matérielles, qui concernent le coût de la vie, sont prises en compte. Et voilà au fond à quoi reviennent ces mesures à triple dividende.
Voilà, merci. Et quels sont les obstacles que tu identifies par rapport à la mise en place de mesures ambitieuses et par rapport à un changement de boussole, pour reprendre le titre de ton livre de manière plus large ?
Non, je crois que l'obstacle principal, à part un manque d'imagination politique, évidemment, où on reste un peu coincé dans le logiciel du XXe siècle, c'est qu'on a atteint dans beaucoup de pays un niveau de concentration du pouvoir économique qui permet aux acteurs économiques dominants de convertir leur position dominante du point de vue économique en influence politique. Allez lire des auteurs comme Joseph Stiglitz, le prix de l'inégalité, je crois que c'est la traduction française du titre de son livre, The Price of Inequality, ou des auteurs comme Robert Reich, par exemple, l'ancien ministre du Travail de Bill Clinton. Ils arrivent au même constat. Allez voir le rapport de la CNUSED, de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement de, je crois, 2020, sur cette question de l'état captif des rentiers. Ils arrivent tous au même constat. Et c'est le constat que je présente dans le livre. On appelle ça parfois le cycle des Médicis, où les acteurs économiques dominants utilisent leur argent, leurs ressources, pour influencer les décideurs. Et pourquoi influencer les décideurs ? Eh bien, pour renforcer sa position dominante dans l'économie et maintenir une position de rente. Et c'est cela à quoi l'on assiste aujourd'hui. Malheureusement, les acteurs qui n'ont aucun intérêt au changement ont de facto un droit de veto dans la décision politique. Pourquoi ce droit de veto ? Ce n'est pas seulement une question de corruption des politiques ou une question de lobbying avec des avocats et des lobbyistes payés cher pour influencer les politiques, même s'il y a un peu de ça. C'est surtout que les grands acteurs économiques, les grandes entreprises, ont deux atouts majeurs entre leurs mains permettant de contrôler la discussion politique. Un, elles ont les compétences techniques qui leur permettent de présenter comme des solutions les technologies qu'elles développent dans leur département de recherche et développement. Elles disent en substance, nous sommes capables de développer des nouvelles technologies qui vont non seulement permettre de réaliser ce fantasme de la croissance verte, ce serait pas mal qu'on y revienne à cette croissance verte, et donc faites-nous confiance, permettez-nous de développer ces technologies et vous allez être dispensés de tous les dilemmes complexes qui sont les vôtres parce que les ingénieurs vont nous sauver. Elles ont ce grand atout-là et comme beaucoup de politiques ne comprennent pas grand-chose aux questions technologiques, ils sont évidemment séduits par ce discours. Et ça, c'est le premier atout qu'elles ont, c'est leur expertise technique en fait. Hein ? Sur des questions comme, y compris d'ailleurs comme l'ingénierie financière et la spéculation ou des questions comme les nouveaux OGM, c'est ce discours technique d'experts qui joue. Le deuxième grand atout qu'ont ces entreprises, c'est qu'elles peuvent dire, nous sommes les championnes des économies d'échelle, nous sommes les championnes dans le contrôle des chaînes mondiales d'approvisionnement, donc si vous voulez qu'on continue d'écouler à bas prix sur les marchés pour des consommateurs soucieux de pouvoir consommer à faible coût des biens et services, faites-nous confiance. Donnez-nous le champ libre. Nous sommes les championnes de cette production de masse qui permet la consommation de masse. Et grâce à nous, nous allons vous garantir la paix sociale, parce que même si les gens sont pas très bien payés, même si les gens sont crevés, même si le burn-out se multiplie, même si la planète est en train d'exploser comme une étuve, nous pouvons continuer à produire des gadgets, à faire de la fast fashion et à répondre aux attentes débiles d'innovation permanente d'un public qui tolère l'obsolescence programmée parce que c'est le plaisir d'avoir régulièrement des iPhones d'une nouvelle génération. Et donc, c'est ce discours-là qu'elles peuvent tenir de manière crédible et qui est d'autant plus séduisant pour les politiques que ça dispense les politiques de choix difficiles de redistribution.
Et justement, tu es revenu dessus... Quel est le problème avec la croissance verte ? Parce que ce serait une solution a priori simple, c'est-à-dire continuons de croître, continuons comme avant, juste en décarbonant l'économie et partons du principe que les avancées technologiques le permettront. Quel est le problème que tu identifies avec ce type de discours ? Tu voulais revenir là-dessus aussi.
Oui, c'est un discours qui est très dominant au sein des Nations Unies et ceci depuis le sommet de Rio de 1992 au moins. Si vous voulez, aux Nations Unies, on a pendant longtemps réfléchi à partir d'une équation, d'une équation très simple qui consiste à dire que l'empreinte écologique que nous avons, la trace matérielle que nous laissons dans les écosystèmes est le résultat de trois facteurs. La croissance démographique, le niveau de vie et de consommation, et troisièmement, la technologie. Pour dire les choses simplement, notre empreinte écologique est d'autant plus grande que nous sommes nombreux, que nous consommons beaucoup, et que la technologie ne nous permet pas de continuer à consommer tout en utilisant moins de ressources et en produisant moins de déchets de pollution. Et au sein des Nations Unies, la croissance démographique est un peu un tabou. Pour des raisons que je pourrais expliquer, on n'ose pas beaucoup en parler, on ne voit pas tellement ça comme un problème, y compris parce que pour beaucoup de pays en développement, la croissance démographique, c'est un succès lié au progrès de la médecine, à la réduction de la mortalité infantile, à l'allongement de l'espérance de vie, etc. Donc, ils voient ça comme une victoire, ils ne comprennent pas qu'on mette en question l'opportunité de continuer à promouvoir la croissance démographique. Donc, premier tabou. Les pays riches, États-Unis en tête, ne veulent pas qu'on questionne les modes de consommation, on ne veut pas mettre en accusation le mode de vie qui est le nôtre, le way of life, hein, notamment des Américains. Donc, ça, c'est un deuxième tabou. Et donc, il reste une chose, la technologie. Et donc, évidemment, il est très tentant de se dire, la technologie va nous sauver, les ingénieurs vont nous sauver, on va produire plus avec moins, etc. Et donc, tout ce discours, la croissance verte, est un discours qui, depuis 40 ans, est un discours très à la mode. Bon, Simon a abordé cette question dans son introduction, dont je le remercie. Il faut nuancer les choses. Ce qui est vrai, c'est qu'à mesure que les technologies propres et vertes se développent, on assiste à un découplage relatif, entre la croissance du PIB et l'empreinte environnementale. C'est-à-dire que par valeur de biens et de services que l'on produit, l'on a une empreinte écologique moindre, y compris en partie parce qu'on est une économie plus tertiarisée, ayant shifté de l'agriculture à l'industrie et maintenant vers les services, etc. Bon. Par contre, le découplage absolu, tu peux tenir mon micro une fois en le tenant près de la bouche, un découplage absolu où on a une croissance du PIB, mais une diminution de l'empreinte écologique, et pas juste une réduction relative de l'empreinte écologique, le découplage absolu, il demeure largement hors d'atteinte. Il est réalisé dans un domaine par un petit nombre d'États, c'est le domaine des émissions de gaz à effet de serre. Et là, c'est vrai que les pays qui ont l'empreinte en termes de gaz à effet de serre émis par personne la plus élevée du monde sont des pays qui, depuis une vingtaine d'années, ont fait des progrès. Et là, on a un découplage absolu entre croissance du PIB et émissions de gaz à effet de serre. On arrive à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en augmentant le PIB. Mais ce n'est pas vrai pour la ponction des ressources, ce n'est pas vrai pour l'érosion de la biodiversité, ce n'est pas vrai pour d'autres formes de pollution que les gaz à effet de serre. Donc c'est très partiel comme découplage absolu. Et donc le découplage absolu complet, si on peut l'appeler ainsi, qui prend en compte toutes les empreintes environnementales que nous avons, celui-ci est un mythe, il n'existe pas. Ne croyez pas que les ingénieurs vont trouver les solutions. Et c'est pas être technophobe de dire ça. Moi, je trouve ça super qu'on progresse vers une économie plus verte et une société bas carbone et tout. Mais ça ne suffira pas et ça ne nous dispense pas de choix politiques douloureux pour avoir du bien-être sans croissance.
Voilà, merci. Moi, j'ai encore de nombreuses questions, mais peut-être il est temps aussi d'ouvrir la parole au public. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions à poser aux intervenantes, aux intervenants. Ouais, Olivier Tuteur, par rapport au livre en question. Voilà, je vais faire le tour directement. N'hésitez pas à vous présenter en disant votre prénom, pronom si vous voulez. Et voilà, à poser vos questions de manière relativement succincte.
Et bonjour, je m'appelle Karel Marneff et je suis moi-même en train de faire un TFE en tant qu'ingénieur. Mais je suis totalement d'accord avec vous sur ce que vous avez dit et je pense que c'est vraiment intéressant qu'on se remette en question. Mais ma question, c'était. On a beaucoup parlé des politiques, mais comment convaincre les gens, en fait ? Comment convaincre les gens qui votent, etc., que c'est vraiment la post-croissance qui est nécessaire ? Parce que moi, par exemple, dans mon cours d'économie, j'ai appris que la croissance, elle était nécessaire parce que les gens dans les pays développés étaient trop habitués à ça et allaient se révolter, en fait, si on passait en post-croissance en politique. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais c'est ce que j'ai entendu dans mes cours. Donc je me demande, est-ce que les gens vont suivre les décisions politiques si on passe en post-croissance ? Merci.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions directement ou bien on en répond une chacune ? Voilà.
Oui, bonjour. Déjà, merci pour votre travail, pour cette présentation. J'avais plusieurs questions. Je ne sais pas à quel point on peut en mettre, Adrien. Ok. Juste par rapport au dernier point sur le découplage absolu entre... croissance économique et émissions de gaz à effet de serre, je me demandais simplement si ce constat était vrai en prenant en compte les émissions importées ou si c'était simplement... Et après, c'est des questions de nous, bon, d'économie, on va dire. J'ai l'impression que l'argent est avant tout un outil d'échange et pas une fin en soi et c'est pas une réalité physique. Du coup, quand on parle par exemple de financer des pensions, financer certaines choses, est-ce qu'on imagine d'autres solutions, peut-être que simplement toujours se référer à l'argent, est-ce que ça reste quelque chose qui est absolument nécessaire? Je ne sais pas ce qu'il y en a derrière. Et pour les pays en croissance, est-ce que les pays en voie de développement, ceux qui ont encore besoin de progresser en médecine, en beaucoup de choses, est-ce que ce constat de décorrélation entre la croissance économique et l'augmentation du bien-être est vrai aussi, ou est-ce qu'ils ont quand même besoin de cette croissance?
Voilà, merci. Peut-être qu'on va commencer par là et puis prendre d'autres questions. N'hésitez pas. Hein.
Oui, merci. En fait, il y a 4 questions, hein, parce que vous avez intelligemment glissé 3 questions dans les 2. D'abord, votre question sur la, si je puis inventer ce néologisme, la vendabilité du projet de post-croissance. Je crois que c'est précisément pour ça que je parle de contre-productivité de la croissance, c'est pour dire elle ne nous sert plus, en fait. Et je crois qu'on peut tenir ce discours en étant très positif. Et plutôt que de dire, en sortant du modèle de croissance, on va perdre, montrer tout ce qu'on va gagner. Et ce qu'on va gagner, c'est d'abord une imagination politique élargie parce qu'on sera obligé d'inventer un autre logiciel. C'est une qualité de vie améliorée parce qu'on va mettre en avant des solutions fondées sur la convivialité, le partage, le ralentissement d'une société qui s'épuise du rythme toujours accéléré qui lui est imposé. Et c'est, je crois, les rapports sociaux qui s'en trouveront apaisés et améliorés. Donc, c'est cette vision-là que j'essaye avec beaucoup de modestie et de difficultés à mettre en avant. Et pour l'instant, je travaille pas mal avec un auteur qui s'appelle Hartmut Rosa. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît, mais quelqu'un comme moi, un fan de Rosa, oui, je vois quelqu'un dans la salle, donc qui porte sur notre civilisation un diagnostic qu'il résume sous le mot d'accélération permanente. On n'en peut plus du rythme toujours plus rapide qui nous est imposé. Et sa solution, c'est sa réponse à la résonance. Et la résonance, c'est quoi ? J'aurais pas dû me lancer dans Rosa, mais c'est l'idée que, au lieu de voir le monde comme une ressource à exploiter et de voir les autres comme des instruments au service de notre propre projet de vie, c'est-à-dire au lieu de vouloir instrumentaliser ce qui nous entoure, on doit pouvoir raisonner avec ce qui nous entoure et avoir avec la nature, avoir les uns avec les autres, des rapports fondés sur l'idée que nous pouvons être émus, touchés, partenaires des autres. Et je crois que il faut vraiment imaginer, je m'excuse, j'ai pas entendu votre nom, mais imaginer une autre source de prospérité que celle qui fonde sur l'accumulation de produits matériels, quoi. Et je crois que les gens, en fait, ils n'ont plus besoin de plus. Il y a même une sorte de fatigue du renouvellement permanent des achats, des modes et les gens se sentent encombrés, hein, de tout ce qui nous entoure comme bien matériel. Je le répète, hein, en 35 ans, on aura doublé le volume de choses qui nous entourent à ce rythme-là. Ça ne sert plus à rien, quoi. Voilà. Mais alors, il y a la troisième question que vous posiez, et puis je reviendrai aux deux précédentes, puisque vous posiez la question « et les pays pauvres, les pays en développement ?» Je pense que c'est légitime comme question. Je crois que dans des pays où on doit encore investir beaucoup dans des infrastructures, hôpitaux, écoles, routes, rails de chemin de fer, etc., la croissance est nécessaire si elle sert ces objectifs-là. Ça ne veut pas dire que n'importe quelle croissance est bonne à prendre. Et dans beaucoup de pays africains, par exemple, on constate aujourd'hui que l'essentiel de la croissance, elle est stimulée par l'exploitation de minerais ou des cultures d'exportation, le secteur de l'agro-export. Et cette croissance-là, elle crée peu d'emplois. Elle détruit par contre les communautés et l'accès aux ressources vivrières pour ces communautés locales, et elle renforce les liens de dépendance postcoloniaux, si vous voulez. Donc ce que je dis aux pays en développement, et ils sont nombreux à me dire, parce qu'aux Nations Unies, on doit parler avec tous les pays, ils me disent, oui, mais l'idée de post-croissance, vous savez, vous voulez nous interdire le progrès que vous avez fait, vous. Mais tout dépend du type de croissance qu'ils poursuivent. Et si la croissance est plus de mines d'Areva pour exploiter de l'uranium dans le désert, ça n'est pas très intéressant, en fait. Et ce n'est nécessaire à ces pays que parce qu'ils ont une dette extérieure à rembourser, qu'ils ne peuvent rembourser qu'en fournissant ce que les marchés mondiaux demandent, et ceci de manière à satisfaire les craintes des pays qui leur prêtent de l'argent, ou des banques qui leur prêtent de l'argent. Et donc, ça fait partie d'une discussion plus vaste sur, je dirais, les relations économiques postcoloniales qui continuent de créer ces liens de dépendance entre le centre et la périphérie. Donc voilà, j'essaie de répondre de manière nuancée à votre troisième question. Je crois que la croissance n'est pas un tabou. Moi, c'est pour ça que je suis un accroissant. Je suis un agnostique de la croissance. Je pense que parfois, elle peut être bonne et parfois, elle est nuisible. En tout cas, elle n'est pas une fin en soi. Ça, c'est clair. Et tout dépend du type de croissance qu'on génère et de ce qu'on met dans ce PIB, si vous voulez. Alors, vous aviez une première question, maintenant j'oublie. Vous avez un mot-clé ? Pardon ? Ah oui, oui. Non. Mais donc, si vous voulez, effectivement, la recherche la plus récente là-dessus, vous pouvez aller voir sur Our World in Data, vous avez des choses sur le découplage, mais il y a un article de Jason Hickel dans Planetary Health, c'est en accès libre, qui pose la question, alors le titre anglais c'est plus ou moins Is Decoupling Happening? C'est juillet 2023, je le signale parce que c'est pas intégré dans la version française du livre, c'est dans la version anglaise, et là il identifie sur 30 pays de l'OCDE, 11 pays où il y a un découplage absolu entre croissance du PIB et réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes de consommation, y compris donc dans les marchandises importées. Et vous avez raison de poser cette question, parce que dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ce qu'on regarde, ce n'est pas les émissions importées liées à la consommation dans un pays, c'est les émissions dites territoriales résultant de la production dans un pays. Donc par exemple, on va intégrer là les pollutions résultant de la circulation de voitures en Belgique, mais pas les émissions résultant de la production de voitures qu'on importe de Chine. Okay, donc c'est une précision effectivement importante. Et alors votre deuxième question, c'était ? Ah oui, je me souviens, excusez-moi. Mais donc, la question que vous posiez, je vais la reformuler un peu autrement, c'est celle du financement des investissements publics. Et là, je voudrais souligner que j'ai besoin de votre aide, chers amis économistes, parce que une manière de réfléchir qui m'intéresse beaucoup, mais dont je voudrais tester l'utilisation possible dans le débat international, c'est la théorie monétaire moderne. Je m'explique. Les États ne sont pas comme des particuliers qui, pour financer l'achat d'une maison, doivent frapper à la porte de leur banquier, demander un prêt, et puis dire, voilà, je vais hypothéquer ma maison, comme ça vous êtes sûr d'être remboursé, et le plan de remboursement est crédible, donc vous ne risquez pas de perdre votre argent. Les gouvernements ne sont pas dans cette position. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une banque centrale qui peut injecter des liquidités dans l'économie. Ils n'ont pas besoin de solliciter de cette banque centrale qu'elle veuille bien, moyennant l'hypothèque d'une maison, prêter de l'argent. La seule limite est le risque qu'avec l'injection de trop de liquidités dans l'économie, si l'économie réelle ne suit pas, on ait des niveaux d'inflation qui augmentent. Mais la théorie monétaire moderne que je viens de décrire en termes très simplifiés, que développe par exemple quelqu'un comme Pavlina Tcherneva à Bard College dans l'État de New York, nous dit donc qu'il n'y a pas de problème à avoir des niveaux élevés de déficit public et nous invite à faire financer les investissements qui sont dans l'intérêt public par, au fond, la création monétaire. Voilà. Le problème, c'est que cette politique-là, ce financement monétaire des investissements publics, n'est en réalité possible que pour les États qui disposent d'une souveraineté monétaire, c'est-à-dire qui peuvent commander, en fait, à la Banque centrale qu'elle accorde des prêts pour faire des investissements publics sans dépendre de marchés financiers qui sanctionneraient l'État par des taux d'intérêt plus élevés si celui-ci n'avait pas une gestion orthodoxe de ses finances. Voilà. Et donc, très honnêtement, moi je suis, heureusement, peut-être que cette question, j'aurai une meilleure réponse en juin, mais je suis encore en train de chercher comment la théorie monétaire moderne peut s'appliquer au-delà du cas des États-Unis, notamment pour des pays endettés en devises étrangères, et qui ne peuvent pas se permettre des niveaux de déficit élevés parce que ça priverait ces pays de la possibilité d'obtenir des financements permettant de financer des importations pour des biens qui ne produisent pas eux-mêmes. Voilà, c'est ça le problème. Si on demande au Bénin, enfin, je prends le Bénin, je pourrais prendre 50 autres pays, mais si le Bénin doit continuer à acheter des machines et des technologies qu'il ne produit pas lui-même, il n'a pas d'autre choix que d'emprunter en devise étrangère, en devise forte, et cela, il ne peut pas le faire en produisant de la monnaie locale, voilà, du CFA en l'occurrence.
Donc voilà, tant d'enjeux complexes, mais hyper intéressants de géopolitique de la dette. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres questions? Je ne sais pas si Simon ou Jeanne voulaient réagir aussi par rapport justement à tout ce qui touche à l'enseignement de l'économie ou plus globalement d'autres questions.
Ici, pour moi, c'est plutôt la notion de théorie monétaire moderne. C'est que on peut ajouter qu'il y a aussi un autre grand risque sur lequel il faut réfléchir pour savoir comment est-ce qu'on peut faire une politique monétaire moderne qui soit désirable. C'est que l'avantage d'avoir des banques centrales qui sont actuellement, comme aujourd'hui, indépendantes des États, donc les États ne peuvent pas emprunter directement auprès de la banque centrale, il faut passer par les marchés financiers, c'est que les banques centrales ont un mandat qui est précis, qui est clair, de 2% d'inflation à long terme. Et l'un des risques de la théorie monétaire moderne, si on l'applique, c'est que les gouvernements ont un rôle plus discrétionnaire, c'est-à-dire que leur politique, elle varie de législature en législature, les priorités varient aussi. Donc ça peut aussi, donc appliquer telle quelle la théorie monétaire moderne, ça engendre un risque de perte de contrôle de l'inflation, tout simplement parce que cette inflation ne serait dans ce cas-là qu'une l'une des multiples priorités de l'État, plutôt qu'avoir une banque centrale qui aujourd'hui est dédiée entièrement à ça.
Bonjour. Moi, j'avais une petite question. Je suis ici cachée par les poteaux, ici. Voilà, salut. Est-ce que vous avez une position particulière sur la proposition qui a déjà été abordée plusieurs fois? J'ai l'impression que c'était quelque chose qui venait plutôt des États-Unis, mais on en a déjà aussi parlé en Belgique. Le revenu de base universel, est-ce que c'est une bonne solution, entre guillemets, de délier travail et revenu pour une personne?
Merci pour cette question qui était une question et pas trois. Il y avait d'autres personnes. Je donne la parole.
Merci. Je suis Rebecca Venuto et je voudrais un peu diriger l'attention sur l'importance d'intégrer une perspective de genre et de féminisme anticolonialiste et antiraciste dans la théorie de la décroissance économique. Donc ma question, c'est plutôt... Qu'est-ce que sont vos considérations, réflexions par rapport à ça? Et si vous pouvez nous dire si cette thématique est débattue au sein de l'ONU et si peut vraiment influencer les prochains objectifs du développement durable. Merci.
Merci beaucoup. Il y avait aussi une question ici.
Oui, c'est deux. Bonjour, je m'appelle Hamza. Donc j'ai deux petites questions, vraiment deux petites. La première, c'est quand vous avez parlé de la transition juste, vous avez dit qu'il faut penser les politiques environnementales d'emblée avec des politiques sociales. Dans les faits, quand on introduit soit des correctifs sociaux, ce qu'on appelle, dans la politique environnementale, de facto, on réduit l'ambition environnementale d'une politique. Exemple, Bruxelles, la low emission zone, la zone basse émission, quand on laisse des gens circuler avec des voitures qui sont polluantes parce qu'ils ont un statut social qui est très bas, par essence, on est moins impactant sur la question climatique. La question, c'est est-ce que la réflexion sur la décroissance comme chemin ou trajectoire pour lutter contre les inégalités ou contre la pauvreté, comment ça s'articule avec le principe pollueur-payeur? Est-ce que ce principe doit toujours être la matrice de la pensée des politiques environnementales et comment il s'articule dans ce que vous défendez? Et deuxième petite question d'ordre vraiment plutôt symbolique sur, vous avez expliqué ce que c'est la pauvreté et j'ai un questionnement sur la charge symbolique derrière ce mot versus l'inégalité. Est-ce qu'il ne nie pas le conflit capital-travail qui existe, qui est souvent source en fait de que des gens tombent dans la pauvreté, en tout cas si pas eux, bah, leurs parents ou leurs arrière-grands-parents? J'ai l'impression qu'il contient une charge chrétienne, si je peux dire, qui fait appel à la charité plutôt qu'à la solidarité, et donc qui est, en termes de effet mobilisateur pour lutter, est plutôt moteur de passivité plutôt que d'être actif. Et donc ma question, c'est est-ce que ce mot n'est pas aussi... parce que les mots sont importants, comme dirait l'autre, et donc est-ce qu'il n'est pas aussi une source de notre... pas incapacité, en tout cas notre difficulté à mettre à l'agenda cette question-là et à mettre fin aux inégalités ou à la pauvreté. Mais ça, je vous laisse le temps. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Peut-être place aux réponses avant de faire un deuxième tour de réponse.
Bonne chance. Non, merci pour ces questions. Elles sont toutes très intéressantes, mais très honnêtement, chacune mériterait des heures de séminaire. Hein. Le revenu de base universel que je préfère appeler inconditionnel pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer ici, mais l'idée de revenu de base. D'abord, j'ai écrit un rapport qui défendait l'idée d'un revenu de base inconditionnel pour les jeunes de 18 à 25 ans. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure façon de s'assurer que les jeunes adultes qui terminent donc leurs études d'humanité, leurs études secondaires et se lancent dans la vie, fassent des choix à ce moment-là qui ne sont pas conditionnés par les revenus des parents. S'ils veulent étudier, s'ils sont passionnés par un truc, y compris que ce soit les beaux-arts ou des et qu'ils fassent ce qui les passionne sans être obligés de faire des choix qui dépendent de la capacité pour les parents de les soutenir dans ces choix-là, me paraît essentiel pour briser la perpétuation de la pauvreté d'une génération à l'autre. Et j'ai fait cette proposition dans un rapport qui porte précisément sur la perpétuation de la pauvreté. Ça me paraît extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on a encore une très grande discrimination dans l'accès aux études et dans le choix de la première profession. Parce que si on choisit un job en fonction de ses besoins de budgétaires parce qu'on n'a pas des parents qui peuvent vous soutenir, on risque de ne pas faire le job qui passionne le plus ou qui est le plus intéressant pour la collectivité. Donc voilà. Cela dit, le revenu de base inconditionnel, je pense que c'est extrêmement intéressant comme proposition, mais il y a une version de droite et il y a une version de gauche. La version de droite, c'est on va payer aux gens un montant fixe, de même pour tous et toutes, indépendamment des besoins, et on va du coup ne plus avoir besoin de l'État-providence, de sa bureaucratie, de ses contraintes et de ses ingérences dans la vie privée. Tout va être plus simple et on va ensuite permettre à chacun de faire des choix de vie, y compris d'aller surfer à Malibu. Et ça, c'est la version de droite. La version de gauche dit le revenu de base inconditionnel, c'est une manière, en plus de l'État-providence classique, qui maintient donc sa dimension redistributive, parce que ce n'est pas ce que fait le revenu de base inconditionnel si on abolit l'État-providence. Et c'est une manière de garantir des choix de vie qui ne sont moins conditionnés par le besoin de payer pour ce dont on a besoin pour vivre. Le problème de cette version de gauche, c'est que c'est évidemment beaucoup plus cher, parce que la version de droite, elle dit on va abolir les politiques de l'État-providence pour financer autre chose, et donc ils trouvent là la solution du financement. La version de gauche a plus de difficultés à justifier cela, et le risque alors est que les employeurs, dans cette version de gauche du revenu de base, disent après tout on peut payer des salaires très faibles parce que de toute façon les gens ont un revenu de base qui va permettre de compenser ce salaire très faible. Et j'ai récemment travaillé sur une entreprise comme Amazon, Walmart, etc. Ils payent des salaires extrêmement bas. Pourquoi ? Parce que les employés de Walmart ou d'Amazon peuvent aller bénéficier d'un programme l'équivalent d'une aide alimentaire parce qu'ils appartiennent à la catégorie des travailleurs et travailleuses pauvres. Et donc, il y a ce risque-là. Et puis, il y a un risque lié au genre. Je veux dire que si on a un revenu de base inconditionnel qui permet, qui dans un pays comme le nôtre serait de l'ordre de 600, 700 euros, c'est-à-dire qui qui est un en dessous évidemment du salaire minimum, mais qui est néanmoins qui n'est pas purement symbolique. Le risque est que plus de femmes que d'hommes réduisent leur temps de travail, voire même cessent de travailler, et ce serait du point de vue de l'égalité des genres une régression. Et donc, exactement comme le travail à temps flexible pénalise davantage les femmes que les hommes, parce que les femmes sont plus nombreuses à travailler à temps partiel que d'hommes. Et donc, méfions-nous quand même de ce risque-là dans une société qui n'en a toujours pas fini avec les stéréotypes de genre. Voilà, donc j'ai une réponse nuancée. Mais je crois que c'est certainement quelque chose d'important de libérer du temps pour l'activité civique, pour l'investissement dans les relations amoureuses et amicales, pour se promener en forêt et écouter de la musique. Tout ça me paraît très important. Et dans le bouquin, d'ailleurs, je parle de la réduction du temps de travail dans ce sens-là et dans cet objectif-là. Mais pour ça, réhabiliter la culture et faire en sorte que les gens qui ne travaillent pas ne s'ennuient pas, est vraiment important. Et un des cauchemars de Maynard Keynes, qu'il exprimait dans sa conférence « L'avenir économique de mes petits-enfants » en 1928, c'était que si on réduisait le temps de travail à 20-25 heures par semaine, les gens seraient en dépression parce qu'ils ne sauraient pas quoi faire de ce temps libre, parce qu'ils ont oublié ce que c'était que de n'être ni dans le travail ni dans la consommation. Okay. Alors j'en viens du coup à votre question sur le genre. Je crois que c'est hyper important et vous posez la question aux Nations Unies. Je crois que les Nations Unies sont encore dans une version du féminisme des 1%. Vous connaissez ce débat entre les deux féminismes, des 1% et des 99%. Moi je me situe du côté du féminisme des 99%. C'est-à-dire que je ne crois pas que le féminisme soit simplement la question de Christine Lagarde à la BCE ou de Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne ou de la possibilité pour davantage de femmes d'être dans les conseils d'administration des entreprises. Je crois que le féminisme doit surtout nous inciter à repenser notre économie non violente pour aller vers autre chose, qui accorde beaucoup plus d'importance, et je n'ai pas dit de prix, mais d'importance, à l'économie du care, à tout ce qui est travail de reproduction, qui n'est pas donc de travail de production, qui, comme l'a dit, je ne sais plus si c'était Jeanne ou Simon, n'est pas intégré dans le PIB, etc. Et de ce point de vue-là, je crois extrêmement important de valoriser bien davantage le care et les métiers essentiels, mais sous-payés. J'ai remis aux Nations Unies un rapport en octobre 2023 portant sur la question des salaires. Et le rapport contient un calcul sur les différences de salaire entre les métiers les moins bien payés, qui pourtant sont souvent des métiers essentiels, et les métiers surpayés, et qui pourtant sont toxiques, nocifs. Publicitaires, traders, cadres dans les entreprises qui extraient l'énergie fossile, etc. Et je dis dans ce rapport, il faut réduire les salaires de ces professions toxiques et augmenter les salaires de ces métiers essentiels. Réponse du patronat, c'est de la provocation, on ne peut même pas entrer en discussion avec ce gars-là. Mais en fait, ce que le calcul montre, c'est que ces différences de salaires ne sont pas liées à des différences d'expérience, de qualification, d'ancienneté. C'est lié uniquement à deux choses. Un, à ce que les bénéficiaires de ces services sont prêts à payer. Évidemment, les clients des banques, des private traders, des private bankers sont prêts à payer beaucoup plus que les gens qui utilisent les services des aides-soignantes ou des infirmiers et infirmières ou des instituteurs et institutrices. Donc, c'est une première explication. Au fond, le salaire est d'autant plus élevé qu'il y a une demande avec un pouvoir d'achat important qui est prêt à payer. Et l'autre explication, c'est que ces métiers essentiels, vitaux, dans les domaines de la santé, de l'éducation, etc., sont traditionnellement des métiers à dominante féminine. Et beaucoup de ces tâches indispensables étaient historiquement assumées par les femmes, parfois gratuitement, sans reconnaissance au sein des ménages, des communautés, etc. Ils se sont professionnalisés, les femmes sont entrées sur le marché du travail en masse depuis les années 60, et c'est super, mais les métiers à dominante féminine continuent d'être sous-valorisés, et les différences de rémunération s'expliquent aussi par ça. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer un bouquin sur le travail, et ma proposition, c'est réfléchissez avant de dire non, c'est de la provocation, que tous les métiers soient payés la même chose à l'heure. Croyez-moi, si les patrons d'entreprise sont payés la même chose que les hommes et les femmes employés par les entreprises de nettoyage à l'heure, les patrons ne vont pas se ruer sur les balais, hein. Ils ne vont pas vouloir se lever très tôt pour laver les locaux avant que les autres n'arrivent pour les occuper. Non. La vraie récompense de ces patrons, c'est d'avoir un grand bureau, d'avoir des gens qui leur disent oui, sans oser contester leur parole sacrée. Et c'est pas le salaire, quoi. Et si ce sont des gens qui disent on a fait plus d'études, on a donc droit d'être payé mieux, ma réponse est mais non seulement vous avez fait plus d'études aux frais de la collectivité, en plus vous voudriez être payé mieux.
Voilà. Il y avait également la question
Alors justement, dans le rapport que j'ai remis en octobre 2023 sur les salaires, je parle beaucoup du pouvoir de négociation. Et donc la pauvreté, je suis d'accord avec vous, c'est une manière, non seulement comme vous dites, de décrire comme un problème qui appelle une solution en termes de charité publique, ce qui en fait relève du rapport de force, mais c'est aussi une manière parfois d'imputer à la personne individuelle ce qui est en fait le résultat de mécanismes sociaux. Et sur le premier point, c'est là que j'ai eu un débat aux Nations Unies qui était parfois un peu dur. La plupart des gens avec qui j'étais en dialogue voyaient le salaire comme le résultat de la rencontre de l'offre et de la demande de deux courbes sur un marché de l'emploi idéalisé. Mais ça n'a aucun sens, parce que les salaires, c'est le résultat de rapports de force entre les syndicats et les employeurs, parfois même entre le travailleur et la travailleuse individuelle et l'employeur, quand on n'est pas représenté par des syndicats. Et donc, dans le rapport, qui a été très fortement nourri par les contributions des syndicats, j'essaye de montrer les différents facteurs qui conduisent à l'affaiblissement du pouvoir de négociation des syndicats, expliquant que depuis les années 80, une part de moins en moins importante de la richesse produite va au travail et une part de plus en plus grande va au capital, aux détenteurs des entreprises, enfin aux propriétaires des entreprises. Cette désyndicalisation liée aussi à la fragmentation du salariat et à la multiplication des jobs précaires, est au centre de ce rapport. Et donc, ma conception de la pauvreté, c'est absolument l'inverse de la conception qui en appelle à la charité publique et qui nie les rapports de force. Au contraire, je la vois comme le résultat d'un affaiblissement du pouvoir de négociation des travailleurs, y compris en raison de la mondialisation, donc la menace de délocalisation et l'automatisation des tâches, et donc le sentiment de redondance de beaucoup de travailleurs et travailleuses dans le monde.
On va faire un dernier tour de questions. Donc il y avait également la question du principe du pollueur-payeur qui restera à répondre par la suite. Je passe la parole directement. Vous pouvez lever le bras.
Oui, je vais juste tenter de ne pas répondre à la dernière question. J'ai pas de bonne réponse. C'est-à-dire, je partage votre diagnostic. C'est vrai que si on accepte que les mesures de transformation écologique doivent être imaginées en tenant compte de leurs impacts sociaux, on se prive d'outils qui, du point de vue strictement de l'accélération de la transformation écologique, pourraient être optimaux. C'est vrai. Mais je dirais deux choses. Un, lorsqu'on a des mesures écologiques qui pénalisent les personnes en pauvreté, et qu'on veut compenser cela. Très souvent, les personnes en pauvreté ne voient pas les bénéfices de cette compensation. J'ai beaucoup travaillé le phénomène du non-recours au droit, l'absence d'information, la lourdeur des procédures pour obtenir des primes, etc. L'effet Mathieu, vous connaissez ça mieux que moi. Et donc, il y a toute une série de facteurs qui expliquent que quand on a des mesures de transformation écologique qui aggravent la pauvreté et les inégalités et qu'on veut les compenser, en fait, ça ne marche pas. Et donc, on se prive, on se coupe de ces personnes-là qui vont résister à la transformation écologique. Et donc, moi, c'est un prix politique que je n'ai pas envie de payer. Et je préfère une transformation écologique qui soit progressiste et socialement soutenable, non pas une écologie punitive, mais une écologie inclusive, parce que je crois que c'est la condition d'un soutien politique large et que la question de la lutte contre la pauvreté me tient à cœur, tout simplement. Mais donc je rejoins votre diagnostic et donc je n'ai pas de bonne réponse à votre préoccupation.
Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour tout ce qui s'est dit. Donc moi, en tant que bibliothécaire de formation et demandeuse d'emploi pour un moment, donc ultra dépendante des financements publics, je suis super convaincue par tout ce qui a été dit. Et c'est là que j'en reviens à ma question. Pour être convaincue, il faut savoir, d'où l'intérêt aussi des réunions comme ça, mais ça rejoint un peu ta question, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Enfin, est-ce que, par hasard, et vous deux aussi, peut-être vous pouvez répondre, pour convaincre les gens, est-ce que vous avez des idées de comment les initier ou plutôt les faire rencontrer ces idées et tout ça de changement, de mode économique et tout ça? Et j'ai aussi une mini-remarque, enfin, c'est pas une si mini-remarque quand on y pense. Quid de l'évasion fiscale là-dedans? Est-ce que en soi, techniquement, la croissance, s'il n'y avait pas l'évasion fiscale, l'argent, il serait là. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris comment je le vois. Mais j'ai probablement tort, parce que, de nouveau, je ne suis pas économiste. Mais,
juste pour préciser, souvent, les économistes ont plus tort que les non-économistes, surtout sur des sujets.
Bonjour. En fait, ma question, c'est à quoi ressembleraient les grandes entreprises dans un monde décroissant? Autrement dit, qu'est-ce que vous allez répondre aux gens qui vous diront, dans un monde décroissant, ben, les entreprises feront faillite et ils licencieront tous leurs employés qui vont se retrouver au chômage et que ce sera une crise. Du coup, quelle est votre réponse à ça?
Je me demandais comment promouvoir l'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation et quel serait le prochain petit pas pour le faire au niveau belge et puis au niveau international?
Une toute dernière question. On en prendra peut-être encore deux. On verra.
Je suis pas francophone de base, donc il y a moyen que j'ai des problèmes un peu avec les mots. Mais je suis pas économiste non plus. Mais donc le PIB, c'est un concept national et ça a été très 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 brièvement abordé, les dépendances qu'il y a des pays de périphérie, pays de centre. Et donc, je me demande s'il ne faut pas réfléchir plus à l'économie. On a une économie globalisée dans le concept, PIB global pour réfléchir sur les questions de... Et alors, ma question, c'est aussi, est-ce qu'il y a des réflexions sur... Et comment on peut faire pour réduire les inégalités, du coup, parce que j'ai l'impression, du coup, quand on parle de PIB, on parle aussi des inégalités dans chaque pays et pas les inégalités qui sont énormes entre les pays de périphérie et des pays de centre. Et comment on peut réduire, en fait, ces dépendances qui sont toujours là, parce que, voilà, les pays sont indépendants, mais les systèmes économiques restent les mêmes, plus ou moins, que pendant le temps colonisé. Merci.
On passe aux réponses et peut-être on fera un tout dernier tour de questions si on a le temps. Voilà, merci.
Du coup, pour répondre à ta question, notre association, elle milite justement pour changer l'enseignement de l'économie et donc de ne pas enseigner seulement la théorie mainstream, la théorie néoclassique, mais d'enseigner toutes les économies qui existent, toutes les théories qui existent, pour que les étudiants, quand ils sortent de leur cursus universitaire, ils aient tous les outils pour pouvoir, après, rentrer dans le monde du travail et trouver des solutions dans les différentes théories. Dans les non-universitaires également, dans les hautes écoles également. Mais nous, notre ASOS, elle est directement liée au cursus universitaire ou hautes écoles. Et donc, on n'a pas vraiment de solution pour en dehors de après les secondaires, quoi.
Même à l'université, on rencontre quand même un problème que toutes les associations qui veulent faire de l'information auprès d'un public plus néophyte rencontrent, c'est que oui, il y a un biais de sélection dans les gens qui viennent aux événements. Ce sont forcément des gens qui sont plus intéressés, donc, et pas forcément les gens qui pourraient le plus bénéficier de ces informations. Effectivement, bah, ça c'est quelque chose qui a été évoqué dans votre question. Donc en soi, pour le moment, en tant que simplement en tant qu'étudiant, je pense pas, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, mais pas l'impression qu'on ait le bagage réellement pour répondre malheureusement à ce genre de questions.
Merci. Alors sur votre première question, j'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ce que je disais tout à l'heure en réponse à votre interpellation. Je crois que il faut éviter de parler de décroissance comme d'un sacrifice, comme d'un moins, comme d'un recul. Il faut en fait se poser la question, comme la vie serait belle si on se libérait de cette idéologie de la croissance, qui est une idéologie, c'est une croyance qui me paraît fausse, qu'elle va apporter le bonheur, et ça nous paralyse. J'aspire au jour où on va pouvoir circuler en ville et voir peut-être une statue qui représentera la croissance, et on dira bonjour statue et on passera son chemin, quoi.
C'est une
idéologie vraiment, et c'est incroyable parce que c'est quasi religieux comme dévotion, et ça n'a aucun sens. Et il faut donner envie d'imaginer autre chose comme société qu'une société qui se donne pour objectif de vouloir toujours plus, comme si le bonheur c'était le toujours plus. Quand on pose vraiment aux gens la question, est-ce que en fait vous pensez que plus d'argent dans la société c'est une bonne chose, on voit bien que leurs priorités vont ailleurs. Mais attention, ils sont plus heureux quand ils font partie des plus riches que des plus pauvres, parce qu'ils craignent le déclassement et ils veulent se classer par rapport aux autres. C'est justement la raison pour laquelle la réduction des inégalités est absolument clé dans ce projet. Si on ne réduit pas les inégalités, on va continuer de vouloir consommer plus, enfin, autant que le voisin, autant que le beau-frère ou la belle-sœur, et pour impressionner. Et on vient de faire avec Kate Raworth et Richard Wilkinson, je ne sais pas si vous connaissez leur travail sur les inégalités, je viens de faire un article avec eux sur les liens entre inégalité et mode de consommation, où on montre avec des travaux de psychologie sociale que la consommation est stimulée par les inégalités, parce que quand on est dans une société fortement inégalitaire, on a peur de perdre son rang, et donc on veut plus parce qu'on veut être sûr de pouvoir se classer par rapport aux autres. Voilà. Et c'est cela dont il faut sortir. Ça nous épuise, ça nous rend malheureux, en fait. Voilà. Et c'est ce message-là qu'il faut essayer de diffuser. Mais j'ai pas de super bonne réponse sur la manière de convertir plus largement.
C'est vrai qu'on en revient donc à cette question du changement de logiciel. Parce que aujourd'hui, dans les cursus de sciences économiques, mais même aussi, ça se trouve un peu dans la recherche, en fait, toute la structure des sciences économiques est basée sur un calcul qui est strictement matériel. Aujourd'hui, dans les réflexions, dans tous les modèles utilisés par les économistes, que ce soit dans le monde plus académique ou dans le monde de la création de politiques publiques ou les entreprises, il y a un focus qui est mis uniquement sur l'aspect matériel des choses. On est aujourd'hui incapable de savoir comment est-ce qu'on peut intégrer, pas incapable, mais on est très peu avancé sur la question de savoir comment est-ce qu'on peut intégrer d'autres considérations dans l'augmentation et l'amélioration des conditions de vie, en fait.
Oui, peut-être moins l'aspect matériel que l'aspect valeur, hein, parce que c'est même l'économie immatérielle reste fondée sur la valeur monétaire, et c'est cela sur quoi on met l'accent. Et donc, le problème est à la fois une économie qui repose sur l'utilisation de ressources et qui est donc un rapport avec le monde physique qui nous entoure, qui n'est pas bien intégré dans le raisonnement économique. Mais l'autre problème de l'économie, c'est une focalisation sur une conception du bonheur qui repose sur la consommation de matériel et d'immatériel, mais mesurée en termes monétaires. Voilà.
Oui, c'est effectivement tout à fait ça. C'est vrai que j'ai un peu fait cet amalgame entre matériel et valeur. C'est un amalgame qu'on fait souvent chez les économistes. Mais il faut dire aussi que dans la recherche académique en sciences économiques, il y a effectivement, on est beaucoup moins avancé que d'autres sciences, en ce sens que on est toujours aujourd'hui en train de débattre de la possibilité ou non d'un découplage absolu, comme Olivier l'a conceptualisé précédemment. Donc, c'est-à-dire qu'avant même de pouvoir savoir comment est-ce qu'on fait pour décroître, pour intégrer d'autres considérations que des valeurs monétaires, il faut déjà qu'on réussisse à passer ce cap de savoir est-ce qu'il y a réellement un découplage absolu qui est possible ou non.
Et je suis désolé de vous couper moments. Enfin, on est à 12 minutes de la fin, donc je propose peut-être un dernier mot de réponse pour les dernières questions qui ont été posées.
Donc elles sont vraiment importantes. Votre question sur l'évasion fiscale, c'est effectivement, c'est pas du tout une mini remarque, c'est important. Ce qu'on constate, c'est que les acteurs économiques les plus puissants, les ménages les plus riches, les revenus les plus élevés, ont beaucoup de facilité à trouver comment payer moins d'impôts, ce qui explique ce paradoxe que les 1% ou les 0,1% les plus riches dans la société ont des taux d'imposition sur les revenus qui sont plus faibles que la classe moyenne. Donc c'est un vrai problème, et d'ailleurs dans les métiers toxiques dont je pense sérieusement qu'il faudrait raboter les salaires considérablement, c'est notamment les conseillers fiscaux qui conseillent l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, vous savez, c'est simplement une manière de prendre de vitesse le législateur qui est toujours un peu en retard par rapport aux pratiques les plus inventives d'optimisation fiscale qui font perdre beaucoup d'argent aux États. J'ai malheureusement pas de chiffres en tête. Elles sont dans un calepin de notes que je n'ai pas pris aujourd'hui parce qu'on est samedi, mais c'est vraiment un problème majeur. Donc je suis d'accord avec vous, je crois que c'est une clé parmi d'autres pour financer les investissements publics dont on a besoin sans qu'il faille pour cela davantage de croissance. Alors votre question, monsieur, elle est vraiment importante sur les entreprises. Donc vous demandiez est-ce que la décroissance, moi je ne parle pas de décroissance, je parle de post-croissance, mais acceptons pour un moment de rendre les deux choses équivalentes. Est-ce que ça va signifier des entreprises qui ferment leurs portes, etc., et qui mettent des travailleurs et travailleuses au chômage? Non, pas nécessairement. D'abord, rappelons que le monde de l'entreprise est quand même très divers. Il y a des grandes entreprises qui sont compétitives sur les marchés mondiaux et qui vendent leurs produits à l'échelle internationale. Il y a des petites, moyennes entreprises, il y a des très petites entreprises qui, elles, souffrent de cette concurrence. Et donc, un modèle de post-croissance qui réduirait le poids des chaînes mondiales de valeur et des marchés d'exportation dans l'économie serait peut-être dans l'intérêt de ces plus petites entreprises dont le périmètre d'action est plus local et qui ont peut-être tout à gagner à la réinvention de notre modèle économique qui met en concurrence les fournisseurs du monde entier et oblige chacun à améliorer sa productivité, sa compétitivité par les coûts. Mais l'autre réponse, c'est que mettre des travailleurs et travailleuses au chômage, c'est quand on voit se restreindre ces marchés, qu'on écoule moins, mais le fait de ne pas grandir n'est pas en soi un problème. Une entreprise peut vivre 100 ans sans grandir de taille. La seule raison pour laquelle elle a besoin de grandir, c'est parce qu'elle a besoin d'attirer des investisseurs qui disent « moi j'ai besoin d'un retour de 7-8% par an sur mon investissement, donc grandissez s'il vous plaît, c'est comme ça que vous allez pouvoir me rétribuer comme investisseur ». Donc l'investissement socialement responsable, l'économie sociale et solidaire sont peut-être des réponses à ce qui, à juste titre, vous préoccupe, c'est la possibilité pour l'économie d'être prospère sans croissance. Je crois que c'est possible, mais je pense que la question que vous posez est vraiment légitime. Alors, il y avait une troisième question.
Sur la sécurité sociale de l'alimentation.
La sécurité sociale de l'alimentation. Donc, c'est un dispositif qui consiste en substance à dire... Je l'explique pour... qui a posé la question? C'est vous, c'est là que vous êtes, oui. Donc, c'est dire simplement qu'en même temps qu'on a un enseignement, des soins de santé, etc., qui sont des biens publics financés par l'impôt et en partie les contributions des employeurs et des travailleurs, on veut que l'alimentation, la bonne alimentation, ne dépende pas du pouvoir d'achat des personnes et on veut en même temps encourager l'agriculture paysanne. Comment faire cela? Eh bien, en donnant aux gens la possibilité d'avoir accès à cette alimentation de qualité sans que l'absence de revenus y fasse obstacle. Une expérience qui est conduite, par exemple, à Montpellier, c'est une centaine de ménages qui se mettent ensemble. Chacun paye, alors je ne sais pas les chiffres, je ne sais plus les chiffres, mais 100 euros par trimestre ou par an. Les plus riches payant 150, les moins riches 150, les moins riches payant 50, et chacun reçoit la possibilité d'acheter pour 60 euros auprès des producteurs, etc. Donc c'est dire, voilà, on va mutualiser l'effort pour rendre l'alimentation durable, abordable pour un plus grand nombre. Et c'est ça la sécurité sociale de l'alimentation. Je pense que c'est vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que cela permet d'éviter cette espèce d'apartheid entre les ménages les plus précaires et les plus riches pour l'accès à une alimentation de qualité, tout en donnant des nouveaux marchés à l'agriculture paysanne, lui permettant d'écouler ses produits sans que ces produits ne puissent être écoulés que vers des marchés de niche qui sont ceux des personnes qui sont les plus riches dans la société. Donc ça me paraît extrêmement intéressant. Je pense qu'il faudrait des incitants fiscaux, peut-être des subventions publiques financées par l'impôt pour que la société dans son ensemble montre son intérêt pour ce genre de dispositif et que la solidarité se joue de manière plus large. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ça vous étonne peut-être parce que j'ai travaillé pas mal sur ces sujets, mais je préfère laisser à celles et ceux qui ont conçu la sécurité sociale de l'alimentation le soin d'en expliquer les mérites. Il y avait une dernière question, je crois.
Il y avait une toute dernière question.
Ah oui, de la personne qui se disait non économiste et non francophone et qui pensait que, en fait, c'est vraiment important ce que vous dites, ce que vous avez amené comme remarque. Je crois que cette interdépendance entre les pays riches et les pays pauvres est un vrai obstacle au changement. Pourquoi ? Les pays pauvres ont une dette extérieure à rembourser, ils doivent donc produire pour l'export. Les pays riches ont tout intérêt à maintenir ces liens de dépendance parce qu'ils ont besoin des ressources des pays pauvres. Et on est dans une division du travail postcoloniale qui, en fait, est un obstacle à l'exercice par ces pays de leur souveraineté économique. Et donc, il faut sortir de cela, d'autant plus que si l'économie se ralentit dans le Nord, dans les pays riches, si on est en économie stationnaire dans les pays riches, et que les pays pauvres dépendent des pays riches pour croître, on est forcé de stimuler la croissance dans les pays riches comme condition de développement des pays pauvres. Et moi, je refuse cela parce que ça nous enferme dans une impasse. Donc, je suis pour le développement des marchés locaux et régionaux dans le Sud. Je suis pour le développement de commerce Sud-Sud. Je suis pour le développement de filières de production Sud-Sud et qu'on découple l'économie des pays riches de l'économie des pays pauvres. Ça ne se fera pas en un jour. Il faut un séquençage de cela sur 10 ou 15 ans, mais je crois que c'est effectivement la voie que nous devons explorer.
Voilà, et merci beaucoup en tout cas à la fois pour tous ces différents éléments, cette discussion. On pourrait en discuter encore de nombreuses heures vu le nombre de questions et le nombre de sujets qui ont été évoqués. En tout cas, voilà, je voulais remercier l'ensemble de nos intervenantes et intervenants d'avoir été ici cet après-midi. Hein, Jeanne et Simon pour Rethinking Economics qui ont fait une introduction qui nous a permis de clarifier les termes du débat, et Olivier, évidemment, pour à la fois la présentation du livre, que je rappelle, s'appelle « Changer de boussole », et pour aussi les réponses aux nombreuses questions du débat. Du coup, à vous, c'est frustrant de terminer là, alors qu'il y avait encore plein de questions et de réponses et de discussions, mais c'est comme ça le timing. Et en tout cas, un grand merci à Jeanne, Simon et Olivier pour cette discussion.
Merci à vous, en tout cas, de nous avoir accueillis. Au revoir.